Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1. Quel plaisir de vous retrouver en ce jeudi jusqu'à 16h et en direct pour partager vos expériences de vie. Je suis comme chaque jour, accompagné de ma camarade Ombline. Comment allez-vous ma chère?
Bonjour Olivier, ben moi ça va, mais vous?
Bon écoutez...
Vous vous en remettez ?
Écoutez, le PSG continuera et ce soir, nous serons tous derrière les Rennais qui vont essayer de nous venger encore contre des Anglais à partir de 19h contre Arsenal. Et puis voilà, il y a de beaux clubs, il y a Lyon encore.
Bien sûr.
L'espoir footballistique reste très vif en France.
Au cœur.
Pendant cette heure, nous vous écoutons, nous parlerons de vous, de votre vécu, de... parce que vos histoires nous intéressent, comme vous le savez. Les jeunes de 19 ans et ceux de 34 ans, et puis ceux qui sont entre 19 ans et 34 ans, sont aujourd'hui bien plus enclins à avoir recours à la chirurgie esthétique plus que leurs aînés. C'est le résultat d'un congrès de l'IMCAS, un congrès qui réunit tous les spécialistes du genre, qui réunissait fin janvier donc les professionnels du secteur. Rhinoplastie, augmentation mammaire et même lifting pour certains, la chirurgie esthétique chez les adolescents, les jeunes adultes interrogent. Qu'est-ce qui les pousse à vouloir modifier leur corps si jeune, jusqu'à même en modifier radicalement leur apparence? Je pense par exemple à Kim Glo, une vedette de télé-réalité qu'on ne reconnaît plus tout à fait si on la croise dans la rue. Beaucoup évoquent les complexes, l'importance de l'image et l'influence des réseaux sociaux. Leurs nouveaux modèles sont des stars de télé-réalité, des mannequins, des youtubeurs. Alors de quelle façon incitent-ils consciemment ou non les jeunes à avoir recours à la chirurgie esthétique? Chirurgie esthétique, pourquoi séduit-elle de plus en plus les jeunes? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
Oui, comme chaque jour, vous composez le 39 21 50 centimes la minute. Comme chaque jour, vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Elena sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Elena.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Elena?
J'ai 19 ans, bientôt 20 ans.
Oui.
Et je viens de Paris.
D'accord. Alors vous, Elena, dès l'âge de 18 ans, vous avez décidé d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Par où avez-vous commencé?
Alors, j'ai commencé par des injections aux lèvres.
Oui.
Et après, j'ai fini par faire une liposuction et une augmentation mammaire.
D'accord. Vous n'aimiez pas vos lèvres? C'était un complexe?
Pour les lèvres, oui.
Oui.
Pour les seins aussi. Pour la liposuction, j'ai pris du poids très rapidement. Donc, je voulais en fait avoir une motivation parce que j'ai pas pu perdre ce que je voulais. Donc, du coup, c'était vraiment pour faire ce que j'avais en trop.
Mmh. Cette opération pour les lèvres, elle n'est jamais définitive, hein, je crois,
puisqu'il faut
le refaire tous les 8 mois.
C'est ça, exactement.
Ça coûte cher, vous le refaites régulièrement depuis?
J'en fais régulièrement, j'en suis à la 4e injection.
Ouais.
Après, ça reste naturel, il ne faut pas abuser de ça.
Ouais.
Et cher, oui, après, ça dépend des chirurgiens. Les prix changent en fonction des praticiens, donc c'est à peu près, moi je paye à peu près 300, ça va entre 300 et 700 euros, ça dépend des praticiens.
Entre 300 et 700 euros. Alors si ça dépend des praticiens, je suppose que la qualité va aussi avec le prix.
Pas forcément.
Pas forcément.
Je pense, pas forcément.
D'accord. Vous n'avez pas eu l'impression que celui qui vous faisait les injections à 700 était meilleur que celui à 300?
C'est pareil.
Bon.
Enfin, pour moi, ça a été pareil. J'ai payé les deux prix et j'ai pas vu une grande différence.
Mmh. Est-ce que ça fait mal?
Ça fait mal, ça dépend des personnes. Moi, j'ai pas eu mal.
Ouais.
J'ai pas de douillette, donc j'ai pas eu mal pour ma part.
Mmh. Est-ce que au moins vous vous sentez mieux? Est-ce que c'est vraiment quelque chose... pour l'instant, on parle de vos lèvres. Hein, est-ce que c'est quelque chose qui vous a décomplexé? Ou en tout cas, est-ce que vous vous trouvez plus jolie depuis que
Oui, largement.
Oui,
oui, largement, complètement.
Alors, on va passer donc à la liposuction que vous avez fait il y a une semaine. Et une augmentation mammaire en même temps. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ça vous empoisonnait la vie. Il y avait des complexes là qui étaient bien présents.
Oui, tout à fait. J'ai eu c'est complexe. Maintenant, je suis beaucoup moins complexée. Après, c'est une opération qu'il ne faut pas prendre à la légère. Moi, j'ai beaucoup réfléchi. Ça fait très, très longtemps que je réfléchis.
Ouais.
Même si je suis jeune, ça fait à peu près... ça fait depuis que j'ai 16 ans que je réfléchis, en tout cas pour l'augmentation de ma mère.
Ouais.
C'est vraiment pas une... C'est... En fait, il ne faut pas... Faut vraiment que ce soit quelque chose qu'on prenne pas à la légère parce que c'est une opération qui est lourde.
Oui.
Moi, je sais que j'ai eu des petites complications par rapport. On vous enlève pour la liposuction, on vous enlève quand même beaucoup de sang en même temps.
Oui.
Moi, j'ai une baisse d'hémoglobine en même temps, donc c'était quelque chose que.
Ça peut s'avérer dangereux, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà, c'est ça. Ça peut être dangereux. Faut vraiment faire attention. Faut réfléchir. Faut faire beaucoup d'examens. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère.
Est-ce que vous en parliez avec vos copines autour de vous parce que il y a d'autres solutions, je suppose. En tout cas, je parle de la liposuction, par exemple des régimes. Est-ce que vous avez est-ce que d'autres solutions s'offraient à vous?
Alors moi, je suis partie voir des nutritionnistes, j'ai pas réussi.
Oui.
Après, je pense que c'est chacun sa motivation. Moi, j'ai pas eu la motivation avec le nutritionniste. Maintenant, aujourd'hui, j'ai fait ma liposuction il y a une semaine. Je suis en plein régime. Mmh. Parce que du coup, comme en même temps, j'ai fait la liposuction, j'ai beaucoup souffert parce que j'ai eu justement mes complications suite à ma baisse d'hémoglobine, suite à ma baisse de tension. On m'a perfusé. Donc du coup, j'ai beaucoup souffert et je suis motivée aujourd'hui à perdre mon poids. Et même quitte à faire un régime, à manger beaucoup plus sainement, aujourd'hui, je suis plus prête que... avant l'opération.
Parce qu'on le verra, on le verra tout à l'heure avec le spécialiste qui interviendra dans cette émission, Pascal Lardellier. Une liposuction s'accompagne aussi, parce que c'est un médecin, hein, c'est le corps médical, s'accompagne de toute façon, on vous dit que voilà, les choses ne vont pas se faire que à travers la liposuction et qu'il va falloir faire un effort et faire un régime pour que tout ça tienne.
C'est ça, exactement.
Vos parents, face à ce souhait d'avoir recours à la chirurgie esthétique, comment ont-ils réagi?
Je ne leur ai pas trop laissé le choix. Après, ils m'ont donné leur avis. Moi, j'ai plus, comme vous disiez tout à l'heure, je me suis confessée un petit peu à mes copines. Non, je me suis plus confessée un petit peu à mes parents. Je leur ai plus parlé de mon choix à mes parents, pas à mes copines.
Oui.
Mon père, il a pris un peu mal. Il s'est dit... que c'était plus, tu veux plus ressembler aux filles de télé-réalité. Ma mère, elle a été un petit peu plus compréhensive. Après, mes parents, ils sont ouverts à mes choix. Ils n'ont pas eu trop le choix. Voilà.
Mmh. Bon, on sent qu'ils n'ont pas eu trop le choix. Vous dites que justement, voilà, vous évoquez la télé-réalité, les réseaux sociaux qui vous ont un peu influencé. Est-ce que vous trouvez que cela banalise la chirurgie esthétique? Ces jeunes femmes qui apparaissent dans ces émissions de télé-réalité. Et on le voit clairement. J'évoquais tout à l'heure Kim Glow. Mais il y en a plein d'autres. Ça banalise quelque part la chirurgie esthétique?
Bien sûr que ça banalise la chirurgie esthétique. Il y a quelques années, il y a 10 ans en arrière, j'aurais eu mon âge, j'aurais peut-être pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça banalise parce qu'on le voit tous les jours dans les réseaux sociaux, à la télé. Donc c'est un petit peu plus commun. Et du coup,
ça vous met la pression?
On est plus rapprochés. Ça met pas la pression. Après, c'est chacun. Moi, j'ai été complexée. J'ai quelque chose qui est quand même. Je reste quand même assez naturelle. Je ressens pas aux filles des téléréalités. Mais on a la facilité en fait de se sentir mieux. Et donc du coup, on opte plus pour la chirurgie esthétique que on opte plus pour la facilité en fait.
D'accord. Merci beaucoup, Elena, de nous avoir fait partager votre histoire aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite bon courage dans ce régime, parce que je sais qu'il faut aussi de la volonté, que vous en semblez rempli de cette volonté. Donc, bon courage. Dans quelques instants, nous accueillerons Lilia. À 18 ans, elle s'est décidée à faire une réduction mammaire pour se sentir mieux. Mais on va le voir, ça ne s'est pas passé comme elle le voulait.
Europe 1.
Un problème avec votre poids, une poitrine trop petite, un nez trop long, vous avez moins de 35 ans et vous avez eu recours à la chirurgie esthétique. Venez nous dire pourquoi au 39-21. Vous pouvez aussi nous écrire, poser vos questions, vos messages sur Twitter, hashtag Europe 1. Vous composez le 39-21, vous échangez avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Vous avez moins de 35 ans, vous avez déjà eu recours à la chirurgie esthétique. Venez nous dire pourquoi et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie. On vous lit aussi via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et nous avons eu en première partie de cette émission, Elena, qui du haut de ses 20 ans avait déjà touché à ses lèvres à 4 reprises, fait une liposuction et puis une augmentation mammaire. En nous parlant quand même de l'influence de la télé-réalité aujourd'hui, aussi des youtubeurs, on en parlait hier avec la surconsommation des enfants. On est encore dans une sorte de surconsommation, mais là liée au physique. Et on va en parler justement avec Lilia. Bonjour Lilia, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Lilia ?
Alors, j'ai 29 ans.
Oui.
J'habite sur la Grande Combe, c'est un petit village après Alès.
Oui.
Et voilà.
Eh bien, c'est déjà pas mal, hein ? La chirurgie esthétique, c'est quelque chose à laquelle vous pensez depuis que vous êtes très jeune, Lilia. Pourquoi ?
Alors, en fait, à la base, je m'étais engagée dans une chirurgie. Bon, c'était pas tellement esthétique à la base.
Oui.
Voilà. En fait, étant jeune, j'ai subi deux réductions mammaires.
Mm-hmm.
À la base, c'était pour un bien-être vraiment. C'était plus pour mon problème de dos.
Oui.
Et sauf qu'en fait, voilà, j'ai été opérée en 2007 exactement, sur Nîmes, par un médecin. Et mon histoire, en fait, a viré au cauchemar.
Pourquoi ça ?
Parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, il y a eu une grosse erreur médicale, niveau esthétique, après, en fait.
Vous êtes retrouvé avec une poitrine déformée, mal équilibrée.
Au lieu d'avoir deux seins normaux, comme toutes les femmes,
oui.
Le médecin, en fait, m'a fait un bloc, si vous voulez. Voilà, je me suis retrouvée avec un bloc. Sauf que, bon, quand je suis retournée le voir, il m'a mis en confiance, entre guillemets. Il m'a dit non, ne vous inquiétez pas. À 3% des cas, c'est très rare, ça arrive. Je vous rattrape ça. Donc, 6 à 8 mois après, je suis repassée sur la table d'opération.
Oui.
Et ça a été un envers.
Une catastrophe.
Ça a été un désastre.
Mmh.
En fait, ça a été réellement un massacre, honnêtement. Ça a été horrible.
Mmh.
J'avais plus de mamelons, j'avais plus. Je me suis retrouvée, en fait, avec un bloc, si vous voulez, les deux seins mélangés, plus de creux entre les deux seins.
Mmh.
Donc, je l'ai très, très mal vécu. J'ai fait une dépression pendant pratiquement 13 ans vis-à-vis de ça.
Mmh.
Et puis, l'année dernière, en septembre 2018, je suis partie faire les boutiques avec deux amis proches.
Oui.
Et on était sur Marseille. Et dans les cabines d'essayage, en fait, à chaque fois, j'essayais, j'avais beau me voiler la face et je savais très bien que je ne pouvais plus mettre de sous-vêtements, je ne pouvais plus mettre de maillot de bain.
Mm-hmm.
Et rien m'allait, en fait. Et du coup, j'ai craqué. Je me suis dit qu'il fallait impérativement que je me reprenne en main, en fait.
Alors, vous avez fait quoi pour ça ? Je crois savoir que vous êtes partie tenter de vous faire opérer en Tunisie, hein ?
Exactement.
D'abord, une petite question avant qu'on aborde la Tunisie. Ce médecin que vous étiez allé voir, il a tout de même fait un travail inabouti. Enfin, en tout cas, il vous a raté, comme on dit dans le jargon.
Ah oui.
Vous avez fait une dépression. Il était spécialisé là-dedans. Il avait une réputation.
Ah oui.
Comment, ce médecin ?
À la base, c'est chirurgien esthétique, plasticien.
Ouais.
Moi, on me l'avait conseillé dans la ville où j'habite.
Mm-hmm.
J'ai quand même payé des frais de dépassement de 1300 euros exactement, parce que voilà, je voulais pas honnêtement passer par un CHU. En fait, c'est bête de penser comme on pense, Mais je me disais qu'en CHU, je pouvais tomber sur un interne. Mais autant un interne n'aurait pas fait un tel désastre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'on a dessus des préjugés, mais ça ne veut rien dire, quoi.
Ouais, ouais.
Et du coup, je suis passée par ce médecin-là,
ouais.
En clinique privée, voilà, parce qu'il opérait en clinique privée, que voilà, je me suis dit que j'allais le faire.
Est-ce que vous avez porté plainte, vous avez fait quelque chose quand même, parce qu'on peut pas non plus massacrer le corps d'une femme comme ça impunément.
Ah oui, oui, non, mais je suis allée voir un expert sur Nîmes.
Ouais.
Alors j'ai été accueillie. Je suis rentrée dans le bureau, j'ai pas dit un mot, j'ai soulevé mon pull. Et quand j'ai soulevé mon pull, j'ai vu sa réaction, il m'a dit « c'est une catastrophe ». Et quand, première question qu'il m'a posée, il m'a dit « qui vous a opéré ?»
Mm-hmm.
Quand j'ai précisé le nom de mon médecin, l'expert en personne m'a dit « oui, oui, effectivement, c'est pas joli ». Mais n'attendez rien de moi, c'est un confrère.
Bon,
payé une consultation de 200 €,
oui,
pour ressortir d'un bureau en me disant c'est un confrère. Je vous dis honnêtement, j'étais démoralisée.
Oui.
J'étais démoralisée.
On peut comprendre parfaitement. Recentrons-nous sur votre volonté au départ. Cette chirurgie esthétique, vous pensiez que c'était la seule solution pour lutter contre vos complexes? Est-ce que vous auriez pu faire autre chose? C'était incontournable cette opération?
Non, c'était obligé. C'était obligatoire. L'opération était obligatoire. Hein. Il n'y avait pas d'autre solution. Comme je vous ai dit, à la base, c'était plus médical.
C'était plus médical, oui. Mmh.
Voilà, à la base, c'était plus médical.
Alors Lilia, vous qui avez donc été victime d'une chirurgie esthétique ratée, lorsque vous entendez qu'aujourd'hui, les 19-34 ans, qui sont plutôt constitués naturellement, normalement, mais qui, à force de regarder la télévision, les vedettes de télé-réalité, les youtubeurs, en viennent à la chirurgie esthétique et ne s'acceptent plus comme ils sont, hein, finalement. Vous en pensez quoi de ça?
Après, c'est délicat parce que, c'est vrai qu'un complexe, c'est quand même dur à vivre, je pense,
ouais,
au quotidien.
Mmh.
Après, il ne faut pas se fier à des stars de la télé-réalité, hein, parce que les stars de la télé-réalité, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous montre pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Hein.
Mmh.
Donc, moi, je pense que si on doit subir une intervention, il faut que ça vienne de nous-mêmes.
Mmh.
Voilà. Il faut vraiment bien y réfléchir. C'est pas une décision qui se prend à la légère, quoi. Mmh.
Parce que vous avez 29 ans. vous êtes jeune. Je suppose que vous y avez largement réfléchi déjà. Mais encore une fois, je rappelle que c'était esthétique, mais que c'était médical. Lorsque on n'a pas le problème que vous avez rencontré vous, il faut quand même échanger. Je suppose qu'il faut en parler avec les parents, avec les amis. C'est comme vous dites, une décision qui ne se prend pas à la légère.
Bien sûr. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Après, le fait mot quand même, c'est surtout nous, quoi. Après, c'est la personne concernée. C'est sûr que les avis sont bons à prendre. Puis, de toute façon, en fonction des personnes, vous aurez du positif et vous aurez du négatif.
Mmh.
Bon, c'est pour ça que vraiment, faut pas se fier ni à des stars de la télé-réalité, ni faut vraiment que la décision soit personnelle, quoi.
Merci beaucoup, Lila, d'avoir pris de votre temps, en tout cas pour aujourd'hui nous raconter votre histoire, pour mieux comprendre pourquoi la chirurgie esthétique séduit de plus en plus les jeunes. Dans quelques instants, nous allons accueillir Pascal Lardelier. Il est professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bourgogne.
Europe 1. Comme Lilia, vous avez décidé de vous faire opérer. Venez nous raconter votre histoire au 39-21. Vous nous écrivez sur la page Facebook d'Europe 1 et Twitter, hashtag Europe 1. On parle de la chirurgie esthétique qui séduit de plus en plus de jeunes femmes, jeunes hommes, pour gommer peut-être une ou des imperfections. Pourquoi ce choix? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, 39-21 pour intervenir.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Pascal Lardelier, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bourgogne. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Nous le disions en préambule de cette émission, les jeunes de 19 à 34 ans sont aujourd'hui beaucoup plus enclins à avoir recours à la chirurgie esthétique, plus que leurs aînés. C'est le désir de le faire qui a augmenté, plus que l'acte en lui-même ?
Alors, je crois que ce qui est important, c'est que les jeunes dont on parle là, il y a quand même un effet générationnel, c'est qu'ils évoluent dans ce qu'on pourrait appeler une médiasphère. Oui. Et cette médiasphère, on va y mettre la télé-réalité, on va y mettre bien évidemment les réseaux sociaux, et on les a évoqués à plusieurs reprises, eh bien, elle voit circuler beaucoup plus d'images que de textes dans un premier temps, mm-hmm. et d'images de corps ensuite. Or, tous les corps que l'on voit, que ce soit ceux des stars des réseaux sociaux, les Kardashians, etc., etc., que ce soit ceux qui sont photoshopés, etc., qui sont snapchatés, ce sont des corps qui sont déformés, finalement. Et donc, on s'est habitué, en fait, il y a toute une génération qui s'est habituée à communiquer en montrant des images de visage, de corps, etc., et qui sont largement retouchées. Or, c'est vrai que, même s'il faut se méfier des explications un tout petit peu mécaniques, eh bien, quand des gens comme Kylie Jenner, dont on a appris il y a quelques jours, l'une des sœurs Kardashian, qu'elle était milliardaire à 21 ans, justement, avec tout le business de son image qu'elle produit via Instagram, etc. Ouais, etc. Ouais. Eh bien, je crois que quand même, on peut considérer que des corps retouchés, alors après, il y a toute une espèce de fantasme du corps idéal, hein, et qu'est-ce que le corps idéal, mais je crois que quand même, télé-réalité, réseaux sociaux, eh bien, ça produit une espèce de pression de la conformité, hein, et on l'a entendu à l'instant, un corps qui est un peu gros, qui manque de ci, qui manque de ça, eh ben, on sait désormais que les images, on peut les retoucher avec de logiciels, et puis que dans la vraie vie, eh bien, on peut les retoucher avec des injonctions, voire avec le bistouri.
Ce qui donne... Allez-y, pardonnez-moi.
Il y a une génération pour qui ces corps... Alors, ça procède de ce que je pourrais appeler, en fait, une espèce de customisation du corps. Oui. Et je crois que je le mettrai en parallèle avec la mode du tatouage.
J'allais vous en parler.
Soit le tatouage éphémère, soit le vrai tatouage connaît une vogue absolument sans précédent. Mm-hmm. Et je crois que les interventions chirurgicales, les injections, les retouches, le tatou, etc., c'est vraiment quelque chose qui va dans le sens d'une espèce de customisation des corps. Mais alors, on voudrait avoir un corps qui se détache finalement de la masse, mais on en revient à travers ce qu'on entend là, et puis à travers les modèles qui sont diffusés via les réseaux sociaux, la télé-réalité. On en revient à un corps qui quand même se doit d'être lisse, musclé, bronzé, avec les bonnes formes aux bons endroits pour les femmes, etc. Je mets des guillemets bien évidemment.
Ce qui n'empêche pas ce que vous dites, c'est pour moi c'est de la customisation aussi, puisque vous évoquez le tatouage. Je me rappelle avoir fait un documentaire il y a 12 ans sur le tatouage où on était parti même sur le piercing et puis sur certaines personnes qui, il y a 12 ans à peine, modifiaient leur corps avec, vous savez, en mettant des cornes ou des boules sous leur peau. Aujourd'hui, on est vraiment 12 ans après. Eh bien, tout ça paraît tout à fait normal de... Je pense notamment, moi qui suis un homme, aujourd'hui, on voit des hommes se faire modifier les fesses. Et c'est vrai que, on est dans une période de customisation de ces corps. D'ailleurs, j'aime bien ce que vous dites. Vous dites qu'on est passé de la télé-réalité à la réalité télé.
Oui, c'est ce que j'expliquais dans une interview il y a quelques semaines. En effet, c'est vrai que maintenant, les choses ne valent finalement que filmer, poster et puis buzzer, commenter, etc. Et je crois qu'on est vraiment dans un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de primat des corps, je le disais tout à l'heure, on ne fait pas tant circuler des textes sur tous ces réseaux, etc., que des images de soi, des images de son corps et tout. Et c'est vrai qu'on prend parfois un petit peu au pied de la lettre le fait qu'il n'y a pas vraiment de second degré entre une photoshopisation, ce que je pourrais appeler une espèce de snapchatisation, où on est dans une dimension complètement parodique assumée, avec des gens qui vont effectivement vouloir se conformer à des bouches qui doivent avoir une certaine apparence, à des poitrines, et puis maintenant, vous en parlez pour les hommes. Et donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un changement de paradigme. Et puis, on l'entend aussi dans tous les témoignages qu'on entend dans votre émission. On a franchi un Rubicon. Il y a encore quelques années, la chirurgie esthétique, elle était quand même plutôt intimidante. Hein. On y avait recours sous le manteau.
Bien sûr.
Et puis maintenant, tout le monde connaît quelqu'un, parents, amis, collègues, fait, qui y a eu recours. On a démocratisé la chose. Ça coûte de moins en moins cher.
Bah, c'est devenu un vrai business, surtout aussi.
C'est devenu un business. On prend l'avion en charter, on va en Tunisie ou en Roumanie ou ailleurs, et puis on va se faire retoucher pour un prix, mais complètement modique. Et c'est vrai que là, on est dans une espèce de mode qui auparavant était assez élitiste et sous le manteau, et qui est devenu vraiment mainstream. C'est vraiment courant principal de se customiser. Voilà. Et on veut sortir du lot en se customisant. Le problème du custom, c'est qu'on voudra avoir un produit, je mets des gros guillemets bien évidemment, original et personnel, et puis on arrive à des produits qui se conforment à des standards qui sont ceux des Kardashian,
mais,
etc.
Mais justement, regardez, on parle aussi du dysphorisme Snapchat. Vous l'évoquiez il y a quelques secondes, un nouveau phénomène grandissant. Snapchat, qui est donc une application qui utilise des filtres pour s'embellir, changer son apparence... c'est inquiétant quand même, parce que nos jeunes, finalement, finissent par vouloir ressembler à cette image qui est filtrée. Et c'est pour ça qu'on les retrouve chez les chirurgiens esthétiques.
Oui, à certains égards, c'est vrai qu'on essaye de se conformer à des représentations idéales qui sont portées par des stars de cinéma, des stars des réseaux sociaux. Et c'est vrai que ne pas ressembler finalement aux standards... ça devient une souffrance. Et on l'a entendu un petit peu. Donc, ne pas se conformer à ce qu'est une poitrine parfaite, je mets des guillemets, une bouche parfaite. On parlait à l'instant de Snapchat, mais regardez comment Snapchat va déformer les visages à des fins parodiques. Et regardez comme finalement les nouvelles lèvres et les nouvelles bouches doivent ressembler à ce qu'on appelait il y a 10 ans le duck face, c'est-à-dire une bouche de canard. Ouais. Et maintenant, on voit des jeunes et on voit des femmes qui ont des bouches qui ressemblent vraiment à des duck face, c'est-à-dire qu'on a une espèce de caricature qui est la réalité.
Je peux vous dire qu'en tout cas, Pascal Lardelier, on va vous retrouver dans quelques instants, mais je peux vous dire que la fille de l'un de mes meilleurs amis, que je n'avais pas vu depuis 3 ans, bien écoutez, je ne l'ai pas reconnue. En 3 ans, elle a fait ses lèvres, le nez, et c'était, j'étais horrifié parce que je ne reconnaissais plus l'ado de 15 ans que j'avais connue à 18 ans pour devenir femme et ressembler justement à... alors, on aime ou on n'aime pas les Kardashians. Moi, c'est pas trop mon goût, mais bon, voilà. Visiblement, vous dites que celle de 21 ans est devenue milliardaire, c'est que elle connaît un certain succès. On va continuer à en parler dans quelques instants. Nous serons avec Lauriane. Elle s'est fait opérer de la poitrine à l'âge de 25 ans, sauf que plusieurs années après, le résultat n'était pas du tout celui auquel elle s'attendait.
Europe 1. Pourquoi les jeunes sont-ils de plus en plus séduits par la chirurgie esthétique ? Vous avez moins de 35 ans, vous y avez eu recours. On vous écoute. 39-21. Je vous trouve un charme fou sur Europe 1 et votre charme est décuplé selon vous depuis que vous avez modifié la profondeur de votre décolleté, depuis que vous avez fait disparaître les premières rides qui vous barraient le front. Vous avez moins de 35 ans et vous avez déjà fait appel à la chirurgie esthétique. Vous êtes avec Olivier Delacroix, 39-21 pour nous appeler.
Et avant d'accueillir Lauriane, nous sommes toujours avec Pascal Lardelier, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Bourgogne. Monsieur Lardelier, les techniques médicales ont évolué aujourd'hui, elles sont moins invasives. Finalement, ça rend les opérations moins effrayantes. Et est-ce que c'est plus facile de sauter le pas, du coup, pour ces jeunes ?
Alors, je pense effectivement qu'il y a un effet désinhibant dans le fait que maintenant, une injection, une heure ou deux dans un cabinet de spécialistes permettent effectivement de possiblement modifier son look et son apparence. Et c'est clair que par rapport à une époque où c'était des chirurgies qui étaient lourdes, me semble-t-il, lourdes, douloureuses et onéreuses, et bien c'est vrai qu'on parlait de la démocratisation tout à l'heure, et puis on peut même évoquer le tourisme de ce créneau, de ce business, qui fait que, en un coup de charter, vous allez vous faire refaire un look avant l'été, et donc c'est vrai que ça procède vraiment de cette démocratisation qui est peut-être, j'ose le mot, il n'est pas moraliste ni provocateur, une espèce de paupérisation peut-être de quelque chose qui fut longtemps réservé quand même à une élite.
Exactement.
Et je répète que c'était très cher, c'était douloureux, c'était impliquant. On savait que telle star, il y a 30 ans, il y a 20 ans, avait eu recours à la chirurgie. Et maintenant, tout le monde, le voisin, le collègue, et puis sur les bancs de la fac, c'est le but de votre émission. Et il y a vraiment une démocratisation absolument vraiment incroyable.
Mais je rappelle juste une seule chose, c'est que oui. L'opération esthétique reste à vos risques et périls pour ceux qui nous écoutent oui. et qui
on
y réfléchissent. Et puis cette paupérisation qui vous porte à prendre des charters, ces risques et périls oui. Peuvent se multiplier parce qu'on a un nombre d'exemples qui ont été évoqués dans beaucoup de magazines d'infos, que ce soit à la radio ou à la télé, qui montrent que il faut se méfier aussi de ces fameux charters. On va continuer à en parler tout oui. à l'heure, Pascal Lardelier. On va accueillir maintenant Lauriane. Bonjour, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1, Lauriane.
Merci à vous.
D'où nous appelez-vous, Lauriane, et quel âge avez-vous ?
Alors, moi, je suis de Livry-Gargan, j'ai 33 ans.
D'accord. Alors, après votre premier accouchement, vous vous êtes lancée pour la première fois dans la chirurgie esthétique. Vous aviez 25
exactement.
Ans. Qu'avez-vous fait exactement ?
J'ai fait une pose de prothèse mammaire parce que j'avais ce qu'on appelle une ptose suite à l'allaitement de mon enfant.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un sein tombant et j'avais perdu tout le volume que j'avais auparavant.
Donc
et
vous
du
vous
coup,
êtes,
je me suis laissée séduite.
Vous vous êtes donc lancée, je suppose que vous aviez mûrement réfléchi cette décision.
Oui, oui, tout à fait, oui. Mm-hmm.
Tout s'est bien passé, je crois, mais
oui.
ça s'est compliqué 5 ans après. Que s'est-il passé au bout de 5 ans ?
Au bout de 5 ans, il s'avère que j'ai eu une énorme douleur au niveau du sein droit avec une asymétrie qui commençait à être flagrante. J'ai consulté assez rapidement pour savoir ce qu'il en était. Donc, à la suite d'examens, on n'a pas su me dire concrètement pourquoi. Il y avait beaucoup de doutes qui persistaient quant à la rupture d'une prothèse. En accord avec un chirurgien avec lequel je travaillais sur le même hôpital, on a réopéré.
Oui.
Et pour cause, parce que la prothèse finalement était, selon les termes du chirurgien, littéralement explosée. Donc on a changé les deux. Et à la suite de ça, j'ai rapidement constaté qu'il y avait un gros problème. Donc j'en ai fait part très très vite au chirurgien quant à mes doutes sur la qualité de l'intervention.
Ouais.
Il m'a garanti qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, que suite à la cicatrisation, ça allait évoluer dans le bon sens. Et en fin de compte, ça n'a fait que s'empirer.
Ouais.
C'est aujourd'hui catastrophique en termes de douleur, en termes d'esthétique, en termes de sensations, de visu, enfin, c'est horrible.
Bon, et quel recours vous reste-t-il aujourd'hui ? Vous en êtes où ? Parce qu'à un moment, lorsqu'on entame ce type d'intervention, on a affaire à des professionnels.
Oui.
Il me semble qu'on a atteint aujourd'hui un niveau, un niveau qui peut nous permettre de penser qu'on a de très bons professionnels. Vous avez porté plainte ?
Alors, j'ai commencé par une procédure de litige à l'amiable. Qui n'a pas été en ma faveur parce qu'à la suite d'un rendez-vous avec un médecin expert. Alors, il faut savoir que quand on vous envoie voir un médecin expert, ce n'est pas forcément un chirurgien, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est dans le domaine de l'esthétique.
C'est, ouais.
Moi, pour le coup, c'était un rhumatologue. Donc, rien à voir. Moi, j'avais demandé à avoir l'assistance d'un médecin via ma protection juridique. Le jour même, ils étaient assez d'accord pour clôturer le dossier en ma faveur parce que le résultat était flagrant. Ils ont bien précisé ce jour-là qu'il y avait un gros, gros problème entre le compte-rendu, la technique, que rien n'était cohérent, qu'il fallait absolument qu'on m'aide et que je me sorte de là parce que je ne pouvais pas rester dans cette situation. Et à ma grande surprise, j'ai reçu un courrier de l'hôpital me disant qu'effectivement, il y avait bien un problème, mais qui était survenu bien après l'opération et qui n'avait rien à voir avec les qualités du chirurgien. Donc j'ai saisi après la CCI, c'est une commission d'indemnisation. Bien évidemment, mon dossier a été refusé parce que je n'atteignais pas le seuil de gravité, à savoir que je n'avais pas eu 6 mois d'arrêt de travail consécutif, parce qu'en fait, moi, pendant 6 mois, si je suis arrêtée, il n'y a personne qui va me payer. Donc, je reste avec ma douleur et je fais ce que je peux. Maintenant, ce qui me reste, effectivement, c'est le tribunal. Mais il faut savoir que quand on s'engage dans une procédure comme ça, tous les frais d'expertise qui sont très, 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 très onéreux sont à ma charge. Donc, forcément.
Pour conclure votre histoire, qui en fait fait penser à celle de Lila, qu'on a eu en. en deuxième partie d'émission, c'est que c'est pas la première fois qu'on entend aussi que le corps médical bien, se fait corps, c'est, ça fait une répétition, mais se protège et qu'il est extrêmement compliqué. Donc, encore une fois, bien évidemment, on part d'un constat de complexe, puisque vous avez fait cette opération en ayant eu un sein qui tombait, et je suppose que c'est quelque chose qui est insupportable. Mais je pense que vous ne seriez pas prête à refaire de la chirurgie esthétique aujourd'hui.
J'ai réfléchi à deux fois. Après, il faut savoir aussi que quand on voit sur Internet les photographies, les notations, parce que le chirurgien qui m'a opéré pour la seconde fois est noté 5 sur 5 sur Google, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, ne vous fiez surtout pas à ça. Mmh. Les photos sont volontairement belles. Ce n'est pas la réalité du tout.
Merci.
Et après, on se retrouve seul.
Merci beaucoup, Lauriane, pour votre appel et pour votre témoignage. Et bien évidemment, comme la route va être encore longue pour que vous ayez... que ce soit réparé au moins un minimum. Je vous souhaite plein de courage. Dans quelques instants, nous accueillerons Marie-Lou, qui, pour se sentir mieux, a fait refaire son nez il y a juste quelques mois.
Europe 1. Nous parlons de chirurgie esthétique chez les jeunes de moins de 35 ans. Augmentation mammaire, fesses plus volumineuses, lèvres plus charnues. Pourquoi êtes-vous passé par là? Vous nous le dites au 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
T'as pas une photo de ton bébé ?
Tiens, regarde, là elle est dans sa chambre. Parce que du coup, on a acheté notre premier appartement chez Cogedim pour qu'elle ait sa propre chambre. Elle est hyper lumineuse avec de grands placards.
Ah, c'est bien, mais t'as pas d'autres photos d'elle ?
Si, si, là, elle joue dans notre immense salon qui donne sur la terrasse.
Oh, elle est superbe.
Oui, et elle en tech.
Je parlais de ta fille.
Avec Cogedim, vous allez être fiers de vos premiers mètres carrés. Et jusqu'au 20 mars, découvrez toutes nos offres pour l'achat d'un appartement neuf sur cogedim.com. Cogedim, vous verrez la différence.
Des injections de Botox pour combler les premières rides, une envie d'avoir des pommettes plus saillantes. Pourquoi les jeunes se précipitent-ils désormais dans les cabinets de chirurgie esthétique? Et est-ce que ça a été votre cas? Vous en parlez avec Olivier Delacroix, 39-21.
Et nous accueillons maintenant Marie-Lou sur notre antenne. Bonjour Marie-Lou, soyez la bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Marie-Lou?
Je vous appelle de Montpellier, j'ai 28 ans.
28 ans, alors de Montpellier, hein, c'est ça?
Oui. C'est ça.
Il y a quelques mois, vous avez pris la décision de vous faire refaire le nez. Il vous empoisonnait l'existence, ce nez ?
Ben, c'était un complexe que je traînais depuis l'adolescence.
Ouais.
Je ne portais pas surtout de profil. Et du coup, j'ai eu l'occasion de faire une rhinoplastie parce que ma cousine y était passée avant moi. Donc,
ouais. Mais vous subissiez des moqueries ou c'était un complexe que vous développiez, vous, toute seule?
À la base, c'était un complexe, mais effectivement, mes copains, surtout pendant la période du collège, je subissais des moqueries sur ça et c'est resté... parce que c'est vrai que quand je me suis fait refaire le nez, les gens ne comprenaient pas spécialement pourquoi, mais oui. Moi, suite à la moquerie, ça m'était resté en tête.
Et souvent, c'est complexe, hein, je dois le préciser, commence à partir du collège où les ados sont d'une violence inouïe entre eux et le physique, les habits, ils peuvent s'attaquer et le complexe peut souvent partir et tenir. À partir de quand vous vous êtes dit que cela pouvait être une solution, cette opération ?
Ben, j'y pensais, je pense vraiment depuis mes 15 ans. Après, bon, j'avais ni l'argent, je pouvais pas partir, j'étais trop jeune pour me faire opérer.
Ouais.
Et j'avais pas de problème niveau fonctionnel, c'était vraiment que de l'esthétique. Et du coup, j'ai attendu d'avoir un petit peu d'économie. Et puis, je me suis lancée là, il y a quelques mois, parce que c'était le moment où j'avais enfin économisé pour me faire opérer. Quoi.
Mmh. Il y a des actrices, des artistes qui font de leur particularité une force, une marque de fabrique presque. Ce genre de personnes qui assument ça, ça ne vous influençait pas?
Ben, je les admire, hein, parce que moi, c'est vrai que quand je les vois s'assumer avec... un nez un peu imposant ou autre chose. Moi, j'aimerais bien m'assumer de la même façon sans passer par la chirurgie, mais ça n'a pas été le cas. Donc, vraiment, je l'admire, mais ça me...
C'était votre solution ultime, hein, cette chirurgie esthétique, on le sent.
C'est ça.
Vous dites que les réseaux sociaux et la télé-réalité ne vous ont pas du tout influencé. C'est uniquement pour gommer un complexe, hein, on est d'accord.
Oui, tout à fait. tout à fait, oui.
Bon, que pensez-vous de ces jeunes qui, dès 18 ans, veulent se faire des injections de Botox ou se refaire les seins, par exemple, comme on l'a entendu en première partie de cette émission avec Elena? Quel regard portez-vous là-dessus?
Moi, à partir du moment où c'est pas pour vraiment gommer un complexe et que c'est juste pour ressembler à toutes ces stars qu'on voit à la télé, ou enfin, je trouve ça beaucoup trop tôt, parce que je me demande qu'est-ce que ça va être dans 20 ou 30 ans pour eux s'ils commencent à 18 ans comme ça. Je trouve ça un peu malheureux, quoi, parce qu'il serait mieux de faire un travail un peu sur soi pour s'accepter, plutôt que, parce que ça a pas l'air d'être vraiment un complexe, c'est vraiment pour ressembler à la société, quoi.
D'accord. Je sais que vous n'êtes pas tout à fait satisfaite de ce nez encore.
Oui.
Est-ce que vous pensez que vous allez régler ça autrement que par la chirurgie esthétique, ou alors vous allez y retourner une seconde fois?
J'aimerais bien régler autrement que par la chirurgie, parce que moi, repasser sur la table d'opération, resubir une anesthésie générale et toutes les contraintes qu'il y a derrière l'opération, ça ne m'enchante pas vraiment. Donc j'ai vu un psychologue, j'essaye de faire vraiment un travail sur moi-même pour accepter... pour m'accepter, quoi, et sans passer par la chirurgie. Après, je déteste pas le nez que j'ai aujourd'hui, j'en suis pas complètement satisfaite, mais de toute façon, il faut attendre un an pour avoir un bon résultat.
D'accord.
Donc, j'ai encore 8 mois à patienter, où il va peut-être encore évoluer, mais si je peux éviter d'avoir recours à la chirurgie une deuxième fois, j'hésiterai.
Un peu de patience, un peu de patience, et puis on va voir, tout ça peut très bien évoluer. Puis je suppose qu'autour de vous, et peut-être tout proche, il y a peut-être un conjoint, un mari, qui vous dit que vous êtes jolie comme vous êtes, donc il faut écouter aussi ces paroles-là, et peut-être arrêter de... Voilà. Mais bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je me retourne vers vous, Pascal Lardelier. Bon, on a parfaitement compris qu'avec Marilou, on n'est pas dans l'influence de la télé-réalité des youtubeurs, mais j'y reviens quand même avec vous, parce que comment peut-on protéger nos enfants de ces images idéalisées? Que faut-il faire pour que nos ados et nos jeunes s'assument finalement?
Alors, c'est pas évident, parce que je voudrais pas avoir un propos de moraliste. Alors, néanmoins, je pense que il y a quand même quelque chose qui est sous-jacent à tout ce qu'on s'est dit pendant une heure. C'est la séduction, la sexualisation et le regard de l'autre sur soi quand même. Et je crois qu'on est dans une société où hyper-sexualisée. Et c'est vrai que l'important me semble être, je pense, non pas tant de vouloir plaire aux autres en se conformant à des canons qui circulent sur les réseaux sociaux, qui montrent leurs abdos et leurs tatouages à la télé, mais déjà se plaire à soi-même.
Des canons, ça n'engage que vous, docteur. Je s'appelle docteur, professeur, pardon.
Je suis docteur accessoirement, mais bon. Professeur, des canons, je veux dire un canon de mesure,
oui.
Quelque chose qui sert de
modèle.
Bien
compris, j'avais bien compris.
Vous l'aviez compris, Olivier, je sais. Voilà, donc il y a la question de la sexualisation, et s'il y a quelque chose d'inquiétant, et on peut en parler en parents aussi,
oui.
C'est une sexualisation de plus en plus précoce. Et puis moi, ce qui m'étonne, c'est un paradoxe, Olivier, c'est qu'il y a des discours qui ont infusé dans les médias, qui ont donné lieu à beaucoup de débats depuis quelques années, des discours portés par des mouvements féministes et paritaires, qui nous disent que les femmes devraient sortir un petit peu de cette espèce de se conformer à des modèles où le corps devient un pur objet de désir. Or, tout ce dont on parle depuis un peu un moment quand même, ce sont des corps de plus en plus jeunes qui se conforment justement à des modèles où le corps de la femme, puisqu'il est quand même essentiellement question de chirurgie esthétique sur des femmes, sur des jeunes femmes, se conforme à cette logique d'un corps qui doit être hypersexualisé pour plaire aux hommes. Et donc là, il y a quand même un paradoxe. Je trouve que c'est un paradoxe. Alors, comment protéger les jeunes, me disiez-vous?
Oui.
Je pense que déjà, se réconcilier avec soi-même. C'est vrai qu'on veut se customiser, disais-je tout à l'heure, mais on aboutit à des clones. Mm-hmm. Et quand on regarde les femmes qui ont abusé, ou les hommes qui ont abusé de la chirurgie esthétique, on voit un espèce de visage figé qui est un visage de clone. On les reconnaît quand
justement,
même, les bouches.
Pascal Lardelier, on va pouvoir en parler avec Christophe dans quelques instants. Il a 48 ans. Il a subi deux opérations lorsqu'il était jeune, mais on se retrouve dans quelques instants. Et puis, merci infiniment à vous, Marilou, pour votre appel et pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe. Et puis, encore une fois, Marilou, patience, il y a encore 8 mois à attendre.
Europe 1. Les jeunes et la chirurgie esthétique, un complexe ou plusieurs vous faisaient souffrir, des complexes que vous avez du mal à supporter depuis longtemps. Vous avez décidé de vous faire opérer, on vous écoute au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix et on se demande pourquoi la chirurgie esthétique séduit-elle de plus en plus de jeunes.
Elle séduit de plus en plus de jeunes aujourd'hui, entre 19 et 34 ans. On a beaucoup parler de télé-réalité. On a beaucoup parlé de l'influence de Snapchat, des youtubeurs aujourd'hui. Mais nous sommes aujourd'hui avec, maintenant pour finir cette émission, avec Christophe, qui a 48 ans. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Vous habitez où, Christophe ?
En Isère.
En Isère. Alors, vous, Christophe, vous avez subi deux opérations lorsque vous étiez jeune.
Oui.
Lorsque vous étiez jeune, et donc il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas toute la télé-réalité, tout YouTube. D'abord, ces deux opérations concernaient quelle partie de votre corps ?
Le nez, ce qu'on appelle une rhinoplastie.
Oui. Et les deux concernaient votre nez ?
Absolument, tout à fait, ouais, absolument. Donc effectivement, à l'époque, il n'y avait aucun moyen d'information aussi facile et diffus qu'aujourd'hui avec tout ce qui est Internet. Donc c'était déjà difficile d'accéder à l'information au niveau des techniques qui pouvaient exister ouais. pour améliorer son visage, au niveau des listes de médecins sérieux, etc. Donc ça a été déjà un parcours du combattant pour savoir qu'est-ce qui existait dans ce marché de la chirurgie esthétique et de savoir qui étaient les médecins compétents en France capables de nous opérer. Parce que malheureusement, il y a quand même aussi beaucoup de charlatans et il fallait éviter de tomber sur quelqu'un de peu scrupuleux qui pouvait vous défigurer la vie et vous détruire votre vie.
Alors, on parle là clairement d'un complexe. Ce qui souvent, de toute façon, aujourd'hui, pour ces jeunes de 19-34 ans, à force d'ingurgiter ces images de télé-réalité, en tout cas d'anges de télé-réalité, par exemple, finissent par complexer hein, sur leur nez, sur leur poitrine, sur leurs fesses, sur plusieurs parties de leur corps. C'était un complexe. Il est parti d'où ? À partir de quand ?
Il est parti à mon adolescence, où j'ai commencé à me transformer, à devenir un jeune adulte. Et j'ai eu du mal à accepter, ce nouveau visage, notamment ce nez qui me faisait des complexes. Et donc, je me demandais par quel moyen je pouvais changer ce visage. Et j'ai appris qu'il existait des moyens de chirurgie qu'on appelle la chirurgie plastique esthétique, qui était un monde totalement inconnu.
Et justement, comme cela a été totalement inconnu, comment votre entourage a-t-il réagi ? Parce qu'un homme qui se fait opérer du nez, je suppose qu'à l'époque, on pouvait porter un drôle de regard.
Chirurgie esthétique pour les hommes, oui, c'était encore quelque chose d'un peu inédit, nouveau à l'époque, et j'en ai très peu parlé autour de moi, à part mes parents bien sûr et ma sœur, mais personne ne l'a su autour de moi. Quoi. Donc ça s'est fait dans la confidence. Ouais.
Vous aviez 20 ans et pour la première intervention, 23 ans pour la seconde, et ce type d'intervention ne passe pas inaperçu, parce que je crois savoir que le visage est un peu bleu pendant quelques jours. Comment vous en êtes sorti ?
Alors moi j'ai fait ça pendant l'été, donc du coup ça me permettait de ne pas être confronté à l'école ou au monde du travail. J'étais à l'époque étudiant. Effectivement on a un plâtre pendant 15 jours qui est sous votre visage, donc très visible. Et effectivement on a un visage qui est très bleu au niveau du nez et sous les yeux, et ce qui fait que c'est assez marquant. Donc il faut éviter d'avoir une vie sociale pendant au moins un mois et demi. Quoi. Voilà.
Bon, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un visage qui vous plaît totalement, que ça a été pour vous une totale renaissance, et que pour cela aussi, lorsqu'on souffre d'un véritable complexe, on peut bien évidemment avoir recours à la chirurgie esthétique. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous, Elena, à Lilia, à Lauriane, à Marie-Lou, de nous avoir fait partager votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Mille merci à Pascal Lardelier pour ses analyses, ses éclairages. Nous vivons dans une société où l'image, le paraître sont devenus très et trop importants peut-être. Partout, on nous montre des corps, des visages de plus en plus lissés, parfaits, si comparés et dangereux, car ce n'est pas la réalité. Entre les retouches et les filtres, il est tellement facile de tricher. Avant de vous lancer dans la chirurgie esthétique, il faut apprendre à s'aimer soi, tel qu'on est. C'est un acte à ne pas prendre à la légère, d'autant que nous l'avons vu avec Lilia et Lauriane, cela peut très mal se passer. La chirurgie esthétique n'est pas une fin en soi, hein. Bien sûr, elle peut gommer, elle peut corriger quelques complexes, elle peut, comme on vient de l'entendre avec Christophe, rendre la vie belle, mais attention à ne pas en abuser. On peut continuer à en parler sur les réseaux sociaux.
Sur Facebook, le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, et sur Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble de l'impact du stress sur la libido, un travail trop prenant, des contrariétés, jusqu'à quel point le stress peut atteindre le désir, l'intimité. Si le stress chronique a eu raison de votre libido, si dès que vous êtes stressé, vous n'avez plus de libido, appelez-nous dès maintenant au 3921 pour nous parler de votre histoire. Ma chère Ombline, j'ai été ravie comme d'habitude de passer 7 heures avec vous.
À demain.